10 minutes avec.
Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Anne Dorazio, architecte, urbaniste, enseignante chercheure à Paris-Lavillette et à l'Université de Nanterre. Bonjour.
Bonjour.
Vos travaux portent sur la mobilisation contemporaine autour de l'habitat, aussi bien du côté des habitants que de la mobilisation, on va dire, associative. Vous intervenez dans le cadre des rencontres nationales de l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est une façon de réinventer notre façon d'habiter, le vivre ensemble.
Pour ceux qui s'engagent dans cette mobilisation, oui, certainement, en tout cas, c'est l'horizon qu'ils se donnent. Ce qu'on voit effectivement, c'est que, alors aujourd'hui, on a encore un grand registre de mobilisation, des projets qui commencent à devenir des réalités, que l'éclosion est longue, voilà, la réalité du terrain est quand même difficile. Ce qui se joue beaucoup au-delà du réinventer le vivre ensemble, moi je pense que c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler la réinvention du quotidien, comme nous l'avait proposé un certain nombre d'auteurs sur cette question-là. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, alors on est bien du coup dans cette question du réinventer, mais c'est des choses qu'on voyait aussi déjà présentes dans les mobilisations des années 70-80 autour de la question de l'autogestion. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui dans les mobilisations autour d'enjeux sur la solidarité entre ménages, de la solidarité entre générations, se reposer la question de comment effectivement un groupe d'habitants en l'occurrence organise son vivre ensemble sans être pour autant dans des effets de communauté, hein, donc on est aussi chacun chez soi, mais ensemble. Et du coup, cet ensemble, il a plusieurs tailles, donc il y a l'ensemble à l'échelle du groupe, mais c'est aussi un ensemble d'être ensemble dans la ville. Voilà. Et je pense que c'est aussi un des indicateurs forts de ces moments-là. Et puis la question qu'on voit poindre de façon intéressante dans ces rencontres de Marseille, parce que peut-être que là il est peut-être un peu tôt pour tirer déjà des conclusions de ces rencontres de Marseille, mais peut-être que la grande nouveauté par rapport aux rencontres précédentes, c'est que les rencontres de Marseille, elles vont signer l'arrivée en masse des opérateurs du logement social sur cette thématique. Et donc c'est aussi être ensemble entre populations de catégories de revenus différents.
Comment on explique d'ailleurs cette arrivée-là, cette évolution-là ?
Dans les registres de la réinvention, ces opérateurs sociaux pour l'habitat sont eux-mêmes aussi dans un questionnement sur se réinventer aussi et réinventer qu'est-ce que ça veut dire que d'être un organisme social qui produit du logement, dont l'histoire fait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il avait l'injonction de produire du logement pour tous et pour le plus grand nombre. Dans une tradition qui était plutôt celle de la tradition française du logement familial, qui est devenue aujourd'hui produire du logement pour les plus démunis. Donc c'est vrai aussi que ces opérateurs sociaux pour l'habitat s'intéressent et se mobilisent effectivement autour de ces mobilisations citoyennes, parce que je pense qu'eux aussi sont aussi au quotidien aux prises avec la réalité difficile des situations individuelles des ménages qu'ils logent.
Il existe deux tendances de groupes d'habitants dans l'habitat participatif,
de famille. Ouais.
De famille. Mmh. Mmh. Vous pouvez m'en parler un peu, c'est donc la coopérative d'habitants d'un côté et l'autopromotion.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais décrit ça effectivement depuis un certain temps. J'avais appelé ça à une époque la nébuleuse de l'habitat participatif. On a effectivement depuis 2010 un vocabulaire qui a fait... qui est une sorte de bannière commune sous laquelle effectivement ces deux familles historiques se sont regroupées, la coopérative d'habitants d'un côté, l'autopromotion de l'autre. Alors elles ont aujourd'hui un intérêt commun à être ensemble, et d'ailleurs elles ont construit des choses, et ces rencontres en sont un bel exemple. Elles ont pour autant au départ une idéologie, elles partagent un socle commun, et elles ont des formes de distinction fortes. La coopérative d'habitants, c'est une initiative qui naît en 2005-2006 en région lyonnaise autour de l'association Abicop, et dont le projet central effectivement de réintroduire la question du modèle coopératif large dans le champ de l'habitat. Réintroduire parce qu'il était, d'une certaine manière, il avait disparu depuis le début des années 70 des possibilités juridiques de le faire. L'autre, au-delà de la volonté de créer, donc de réouvrir un nouveau statut, l'autre ambition de ce mouvement, de cette famille, c'est de poser clairement la question de la non-spéculation du logement, de faire en sorte que le logement soit avant tout un bien d'usage avant d'être un bien spéculatif. Et puis, je crois que de mémoire, un des slogans d'Abicop, c'est de dire la coopérative d'habitants, c'est plus que du logement. Donc on est bien dans cette problématique de l'habitat dans toutes ses formes, c'est-à-dire habiter, voilà, on est bien dans cette question-là. Ça, c'est pour la coopérative. Pour l'autopromotion, il y a plusieurs filiations. L'actuelle, on a une filiation ancienne, donc qui est vraiment ces mouvements de l'habitat autogéré, qui vont refaire surface, qui se réorganisent à partir de 2007, hein, au faveur des autres mouvements. Et puis, on a une filiation aussi qui vient, entre autres, hériter des expériences des éco-quartiers nord-européens autour de ce qu'on appelle le Baugruppen, entre autres en Allemagne, où là, ce sont effectivement des familles qui se groupent pour construire pour elles-mêmes. Hein, Baugruppen, c'est ça. Hein, c'est... Et le groupe constructeur, d'une certaine manière, et qui, là, cherche très clairement une alternative à la vente, à la copropriété classique et surtout à ce qu'on appelle l'effet promoteur et la vente sur plan. Voilà. Donc là, ils cherchent autre chose. Donc dans les deux cas, de toute façon, et je pense que c'est ça aussi qui fait le socle de cette rencontre et de cette union aujourd'hui sous le terme d'habitat participatif, c'est qu'on a des réseaux qui cherchent dans cette nouvelle, dans ce qu'ils appellent eux la troisième voie, eh bien effectivement un espace et des réponses sur des produits classiques de l'immobilier qui ne trouvent pas satisfaction à leurs yeux.
À quoi ressemble d'ailleurs le ménage type qui va s'installer en habitat participatif ?
Alors, c'est forcément une caricature hein, de oui, parler bah en oui, type, sûr, mais on peut essayer de l'esquisser. Il est vraisemblablement, et d'ailleurs, ces rencontres de Marseille me font dire qu'il change, ou en tout cas qu'il se caractérise, ou qu'il y a forcément plusieurs types. En tout cas, aujourd'hui, on est quand même sur une mobilisation qui reste une mobilisation de militants. Hein, donc là, pour l'instant, on est encore aux premières heures des opérations, et ces premières opérations sont très largement des opérations de militants. Les premières opérations sont plutôt portées par des trentenaires, familles, qui sont des urbains, des ménages, on dirait en sociologue, on dirait avec de forts capitaux sociaux, avec un niveau d'éducation élevé, pas forcément de ressources économiques très élevées pour le coup. Certains parlent de la classe créative, des classes alternatives. Bon voilà, ça c'est le format de ce qu'on voyait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui peut-être, et là du coup les rencontres de Marseille signent aussi bien ça, c'est l'arrivée en masse, alors ça fait un petit moment qu'ils sont là aussi, mais l'arrivée en masse de la troisième génération. Et de la question du coup du vieillissement et de l'habitat. Et on voit bien dans ces différents types que vient se chercher, et je pense que l'habitat participatif, je ne sais pas s'il porte ça, mais en tout cas il est un des signes de ce phénomène, qui est que les ménages viennent chercher au-delà du caractère assurantiel que le logement peut avoir comme une sécurité dans les dispositifs sociaux ou dans la faiblesse des dispositifs sociaux aujourd'hui qui historiquement en France sont construits sur le travail et qui aujourd'hui du coup peinent forcément à exister, eh bien viennent chercher de nouvelles formes de solidarité autour de cet espace du logement. Et je pense que pour les plus de 60 ans, on est clairement sur cette question-là.
Vous l'évoquiez un petit peu en parlant d'un acte militant. Est-ce qu'on peut parler, pour l'habitat participatif, d'actes même politiques ?
Ah ben, en tout cas, on peut dire qu'il y a une entrée en politique de l'habitat participatif. Ça, c'est clair. En tout cas, les militants, les entrepreneurs de cause, comme on dit, considèrent eux qu'ils sont bien dans un message politique. Je pense qu'ils font partie d'une famille, hein. Ils s'inscrivent dans les registres des mouvements sociaux. Effectivement, en France, ils réémergent. Ils ont émergé un peu avant la crise de 2008, mais effectivement, les choses se structurent très clairement à l'occasion de ces éléments de crise. Il y a une volonté, effectivement, de porter un message sur un autre monde est possible. Hein, on est bien dans cette question-là. Et sur le fait de questionner très clairement les modes actuels d'organisation du système social. Donc je pense qu'effectivement, on est bien dans une question politique.
Et aujourd'hui, comment démocratiser la démarche d'habitat participatif ?
Alors ça, je pense que c'est le grand chantier que les réseaux vont devoir ouvrir. Les rencontres, donc celles de Marseille d'aujourd'hui, mais elles signent finalement, il y a plusieurs temps. Il y a tout ce temps de construction des réseaux, donc du moment où les associations se structurent. Ça, ça se fait à peu près jusqu'en 2010, avec des choses qui sont des fois un peu des heures à certains moments et puis qui arrivent à se structurer donc sous ce vocable habitat participatif. 2010, c'est la rencontre de Strasbourg et là, c'est l'entrée en scène des collectivités locales. C'est un moment important parce que ça va effectivement participer de la publicisation de ce temps. 2012, c'est les rencontres de Grenoble et là, c'est l'annonce de la ministre Cécile Duflot qui, en vidéo, puisqu'elle n'est pas présente dans la salle, mais annonce à un auditoire bouche bée le fait qu'elle va inscrire le dossier habitat participatif dans la loi Allure. Donc là, on a une entrée magistrale, une institutionnalisation. Les plus grandes portes de l'institutionnalisation s'ouvrent. Ça, c'est une fin 2012. Et puis 2015, moi, je considère, et les tables rondes d'hier, l'ouverture des tables rondes d'hier avec la présence du président de l'Union sociale pour l'habitat, des bailleurs sociaux, des coopératives HLM, montre l'arrivée en force, effectivement, des opérateurs sociaux pour l'habitat. Donc moi je suis observatrice de ça, pour l'instant je ne suis pas en train de prédire l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. Pour autant, vraisemblablement, il est clair que si l'habitat participatif devient réellement un élément de production d'un habitat différent, il est clair qu'il va falloir qu'il sorte des sentiers battus ou des sentiers actuels stricts de la militance pour trouver d'autres espaces. Vraisemblablement, pour l'instant, c'est du côté des opérateurs sociaux pour l'habitat que ça se fait.
Merci, Anne Dorazio.
Merci.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...